blowing against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X Files
avec Christian Page.
Oh my gosh, dude. Radio X.
10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Good roll pitch.
Roger, roll pitch.
Houston now controlling the flight of integrity on the Artemis II mission around the moon.
Integrity, AMT high.
Bonsoir et bienvenue dans les Radio X-Files édition du vendredi 3 avril. Évidemment, ce qu'on vient d'entendre, c'est le lancement d'Artemis 2 hier. Avant-hier, en fait. Christian Page, bon vendredi, bonsoir.
Bon vendredi, oui.
Quel lancement exceptionnel, fascinant. C'est toujours impressionnant, en fait, le bon mot.
Tout à fait. J'étais sur le bout de ma chaise. J'attendais, là, j'attendais impatiemment. Et pour ceux qui ont regardé le lancement, on dirait qu'on est 10 minutes à peu près avant le lancement. Il y a eu un arrêt. On a comme revérifié les systèmes. Là, je tapais du pied en attendant que le compte à rebours reprenne. Et finalement, donc, un décollage tout à fait magnifique.
Oui.
Le vaisseau Artemis 2 là, qui emporte les astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen. Jeremy Hansen qui est un Canadien d'ailleurs, un spécialiste de mission. Donc pour la première fois depuis maintenant décembre 1972, dernière mission Apollo, qui était Apollo 17. Donc pour la première fois, des humains vont aller tourner autour de la Lune. Il n'y aura pas un alunissage, mais on va quand même tourner autour de la Lune. C'est la première fois qu'on le fait là, depuis, comme je l'ai mentionné, depuis les années 70. C'est également l'endroit où, à ce jour, les êtres humains auront été le plus loin. Hein. L'équipage d'Artemis 2 vont être les humains à avoir voyagé le plus loin de la Terre. Et ils vont avoir une grande première aussi. C'est la première fois que les astronautes vont voir de visu, de leurs propres yeux, vont voir la face cachée de la Lune éclairée par le Soleil. Puis là, c'est amusant
parce que
j'ai une petite anecdote à te raconter. Au moment du lancement, donc mercredi, dans la journée de mercredi, c'était avant le lancement, j'étais avec David Saint-Jacques, qui est l'astronaute canadien. Et donc, il y avait une espèce de... Évidemment, il y avait une effervescence, on était au milieu d'une mêlée de presse. Et David Saint-Jacques dit comme ça, il dit c'est la première fois que les humains vont voir la face cachée de la Lune. Et après qu'il ait fait cette déclaration-là, dans un coin, je lui dis, tu sais que si tu répètes ça encore, là, éventuellement, les théoriciens du complot vont récupérer ça.
Évidemment.
Et lui, David Saint-Jean, qui est absolument pas branché théorie du complot, c'est un gars très sympathique, excellent vulgarisateur, excellent porte-parole d'ailleurs pour l'Agence spatiale canadienne. Et là, il m'aurait dit, oui, parce que durant les missions Apollo, faut-il le rappeler, on a eu 6 missions lunaires, et donc Apollo 11, la première à se poser sur la Lune. Il y a eu Apollo 8 également qui avait tourné autour de la Lune avant, mais si on parle essentiellement des missions avec des alunissages, on a eu Apollo 11, Apollo 12, Apollo 13 a été avorté, 14, 15, 16 et 17. Et à chaque fois où il y a eu ces fameux alunissages, on avait toujours des équipages de 2 astronautes qui débarquaient sur la Lune et le 3e astronaute demeurait dans le vaisseau Apollo, dans la partie, le petit bout pointu qu'on appelle le module de commande. Donc, il lui demeurait dans le module de commande en orbite autour de la Lune. Alors, tu comprends que les théoriciens du complot vont dire « Ouais, mais là, David Saint-Jacques dit que c'est la première fois qu'on va voir la face cachée de la Lune. Est-ce qu'il sous-entend que c'est on n'a jamais été avant en orbite autour de la Lune? » Tu comprends? Parce que sinon, les astronautes Apollo l'auraient vu. En fait, c'est là qu'il faut la nuance. Hein? David Saint-Jacques n'avait pas vu ça venir, mais là, ouais, j'ai dit ça. La nuance, c'est la première fois qu'on va voir cette face-là éclairée. Parce qu'on le comprend, durant les missions Apollo, pour des raisons techniques. Bon, d'abord, il faut savoir que la Lune nous montre toujours la même face. Hein? C'est ça, c'est dû à une espèce de curiosité synchro. De synchro là. Elle met 28 jours à faire le tour de la Terre, puis elle met 28 jours à tourner sur elle-même.
Mm-hmm.
Fait que ce qui fait qu'on voit toujours le même côté de la Lune. Et pour des raisons techniques, on l'a bien compris, là, on n'a pas des satellites puis des antennes relais autour de la Lune. Donc, quand il y a eu les missions Apollo, ben, les astronautes, d'abord, il fallait qu'ils se posent là où il faisait jour, hein, ce qu'on appelle le jour lunaire. Il fallait se poser dans le jour lunaire, donc pour être éclairé par la lumière du soleil. Puis en même temps, il fallait qu'il n'y ait pas d'obstacle entre les astronautes et la Terre. Hein. C'est bon, il fallait que les communications soient directes. Donc, à partir de là, de l'autre côté, donc la face cachée de la Lune, elle se trouve dans l'obscurité à ce moment-là. Donc, et les astronautes qui demeuraient dans le vaisseau Apollo en orbite autour de la Lune, ben eux, à chaque fois qu'ils passaient derrière la Lune, donc vis-à-vis la face cachée de la Lune, cette face cachée était plongée dans l'obscurité totale, puisque c'était la nuit lunaire. Donc, c'est pour ça que quand David Saint-Jacques dit « c'est la première fois qu'on va le voir de nos yeux
ah », oui.
En fait, ça veut pas dire que c'est la première fois que les humains vont survoler la face cachée de la Lune, mais c'est la première fois parce que là, comme il n'y a pas d'alunissage de prévu pour la mission Artemis 2, la NASA a décidé de faire cette grande première en disant « bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de spécial ?» Ben, c'est de voir la face cachée de la Lune éclairée, ce qu'on n'a jamais vu. Donc, les astronautes d'Artemis, non seulement seront-ils les êtres humains à avoir voyagé le plus loin dans l'espace, mais également, leur orbite autour de la Lune est une orbite qui est très large, hein. Donc, non, pour ceux qui s'attendaient à ce que l'orbite soit assez proche pour qu'on voit les sites d'alunissage des missions Apollo...
On les verra pas.
On les verra pas. Si on veut voir ces sites d'alunissage, il faut quand même le dire, il y a des sondes japonaises, mais surtout des sondes indiennes qui se sont mis en orbite autour de la Lune sur des orbites basses qui ont permis de photographier les sites d'alunissage. Donc, on a de magnifiques photos. On voit les LEM sur la Lune, hein, le premier étage des LEM lunaires. Et pour les missions plus tardives, là, on parle de Apollo 16, 17, là, et même Apollo 15, ils avaient une petite Jeep hein, qu'ils avaient amenée sur la Lune, ouais. Le Lunar Rover. Donc, on peut voir là, sur les photographies prises par les sondes indiennes, on peut voir le rover sur la Lune. Bon, les empreintes de pas laissées par les astronautes. Mais ça, mais pour voir ça, il faut être en orbite basse autour de la Lune, ce qui ne sera pas le cas avec Artemis. Donc, l'orbite est beaucoup plus large que ça. Mais on va avoir droit à des visions tout à fait magnifiques de la Lune. On peut imaginer la vue. Tu as la Lune en premier plan, la Terre derrière. Et là, on va la voir éloignée. La face cachée va être éclairée. Ça va être magnifique.
Absolument.
Le spectacle que ces gens-là vont s'offrir, c'est... bon, c'est bien sûr, c'est du jamais vu, mais ça va être... On peut imaginer que ça va être vraiment... à couper le souffle. Donc, oui, bon, félicitons la NASA et tous les gens qui ont contribué à l'envoi de cette mission Artemis et ce retour de l'homme autour de la Lune. On sait que ce qui était prévu, c'était que la mission Artemis 3 permette à des astronautes de débarquer sur la Lune. On sait maintenant qu'aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Il faudra attendre Artemis 4. Artemis 3 sera une grande répétition autour de la Lune et Artemis 4 va permettre à des hommes de débarquer sur la Lune.
C'est quand même... Ça prend beaucoup de missions exploratives pour arriver à ses fins.
Oui, parce que... c'est amusant, Nick, que tu mentionnes ça, parce que beaucoup de gens se disent pourquoi tout ce déploiement, tous ces essais, alors que déjà dans les années 70, avec une technologie qui était quand même toute assez désuète, on a réussi à faire ça. Mais il faut bien comprendre qu'ici, on ne parle plus du tout de la même chose. Là. Et je sais que je l'ai déjà dit, même à cette émission, on en a déjà parlé, mais l'idée n'est plus d'envoyer des gens sur la Lune, récupérer des cailloux puis revenir. Si c'était ça l'objectif, on aurait pu faire ça il y a 15 ou 20 ans. Là. On aurait pu le refaire. C'est pas si compliqué que ça, là, mais on avait la technologie pour le faire. Mais on ne veut pas faire ça. C'est pas ça qui est l'idée. Maintenant, pour ceux qui ont suivi l'actualité, on sait qu'avec l'émission Artemis, ce que l'on veut, c'est avoir une présence plus ou moins permanente sur la Lune. On veut installer une base. On veut installer des infrastructures et on veut que éventuellement ces infrastructures servent de tremplin pour aller explorer d'autres mondes. On pense principalement à Mars, mais on peut penser également au siècle prochain, aller visiter peut-être des lunes de Jupiter ou de Saturne ou peu importe. Mais c'est sûr que on veut que la Lune devienne un peu un point de départ pour ses missions vers d'autres mondes. Donc, et là, ça demande toute une infrastructure. Déjà que la NASA a revu, il y a quelques semaines, ils ont annoncé qu'ils ont revu le plan initial. C'était de placer en orbite autour de la Lune une espèce de station spatiale, un peu comme la station spatiale orbitale, mais en placer une comme ça autour de la Lune. Et à partir de cette station-là, donc les astronautes qui partiraient de la Terre iraient dans cette station orbitale lunaire, et de cette station orbitale lunaire, il y aurait un vaisseau qui ferait des allers-retours de la surface de la Lune à cette station.
OK.
ce qu'ils appelaient le gateway. Mais là, éventuellement, ce mécanisme-là était compliqué, c'était excessivement coûteux, c'était des milliards et des milliards. Ouais. Donc la NASA a décidé, on a appris il y a quelques semaines, qu'ils avaient abandonné ce projet. Donc maintenant, il y aura une allée directe. On va partir de la Terre et on va amener les astronautes sur la Lune. Ils vont s'installer et ils transporteront de mission en mission, un peu comme on le fait avec la station spatiale. La station spatiale, aujourd'hui, elle est gigantesque, mais il faut savoir que ça a commencé par un premier module, puis un deuxième module qui est venu s'arrimer après, un troisième, un quatrième, et comme ça, la station s'est développée. Donc, c'est un peu ce que l'on prévoit pour Artemis. Des missions vont aller porter certaines missions habitées, d'autres non habitées, mais ces missions amèneront du matériel sur la Lune que les astronautes vont assembler pour créer éventuellement cette fameuse base. Mais pourquoi je t'en parle dans Radio X-Files? Parce qu'il faut bien glisser un peu quelque part dans l'étrange. Dans l'étrange ou les théories du complot. Et ce qui est amusant, parce qu'on ne voit pas ça de même, là, mais si on s'intéresse aux théories du complot, la mission Artemis va signer en quelque sorte pour 80% des complotistes qui croient que nous ne sommes pas allés sur la Lune. La mission Artemis va devoir les obliger soit à revoir leur position ou à faire une fuite en avant. Et je m'explique. Parce qu'avec la mission Artemis, les astronautes devront traverser ce qu'on appelle les ceintures de Van Allen. Et les ceintures de Van Allen, certains appellent la ceinture de Van Allen, mais en fait, c'est deux, peut-être même trois maintenant, parce qu'on sait qu'il y a peut-être une ceinture transitoire. Mais on a deux principales ceintures. On est dans ce qu'on appelle la magnétosphère. Donc, on est bien au-delà de la Terre. On peut imaginons-nous la Terre, là, pour les gens qui nous écoutent. Imaginez-vous la Terre avec deux croissants, dont chaque pointe du croissant touche au pôle, le pôle nord et le pôle sud. Donc, on s'imagine ces deux croissants de chaque côté de la Terre.
Okay,
donc, il y en a un de ces gros croissants qui se trouve le plus ou moins entre 700 et 10 000 km de la Terre, et puis un autre entre 13 000 et 65 000 km de la Terre. Ces deux gros croissants sont composés, là, ce sont des ceintures qui sont composées, là, chargées en électrons, et elles servent quelque part à filtrer un peu les vents solaires qui nous arrivent et qui nous protègent, hein, pour qu'on soit moins exposés à ces fameux vents solaires, et également du rayonnement cosmique, les rayons gamma et tout le reste. Donc, c'est un bouclier de protection. Et les gens qui croient, qui croient que nous ne sommes pas allés sur la Lune, un de leurs arguments favoris, c'est de dire, puis faut-il le dire, ces gens-là ne sont pas des physiciens ni des astrophysiciens, mais c'est de dire que les ceintures de Van Allen sont tellement radioactives que tous les astronautes qui auraient traversé les ceintures de Van Allen seraient morts ou instantanément, ou seraient morts au cours des mois qui auraient suivi leur voyage dans l'espace. Et comme aucun des astronautes des missions Apollo n'est mort dans les mois qui ont suivi leur mission lunaire, c'est que forcément, selon eux, ils n'ont pas traversé la ceinture de Van Allen ou les ceintures de Van Allen, sinon ils auraient été irradiés mortellement. Et le seul moyen de s'en protéger, c'est que, bien sûr, le vaisseau Apollo ait été protégé par un écran de plomb de plusieurs mètres d'épaisseur, ce qui clairement n'était pas le cas. Donc, pour eux, l'un des arguments, c'est on ne peut pas aller sur la Lune parce que aller sur la Lune nous oblige à traverser les ceintures de Van Allen. Et si on le fait, les astronautes vont mourir. Donc, tu comprends que si dans 10 jours, maintenant 8, si les astronautes de la mission Artemis reviennent sur Terre, ben là, il y a pas, ces gens-là n'auront pas beaucoup d'autre choix. C'est ou bien la mission Artemis était fausse également, et qui n'ont pas traversé les ceintures de Van Allen, ou bien je vais devoir revoir mon argumentaire à propos des ceintures de Van Allen. Parce que les ceintures de Van Allen, il faut quand même le dire, là, objectivement, quand je te dis ces gens-là ne sont pas des physiciens ou des astrophysiciens, quand tu poses la question à des spécialistes, évidemment, ils éclatent de rire. Hein. Les ceintures de Van Allen, ce sont des particules qui sont très chargées. Puis évidemment, si tu décides d'aller passer 3 mois à l'intérieur de la ceinture de Van Allen, ben là, éventuellement, tu vas être irradié mortellement. Mais il faut savoir que pour traverser, pour aller vers la Lune, les astronautes des missions Apollo ont traversé les ceintures de Van Allen en moins d'une heure. C'est tellement négligeable que je me rappelle encore récemment, j'avais vu une entrevue avec Charles Duke, qui était le pilote de la mission du module d'atterrissage, là, du LEM lunaire d'Apollo 16. Et Charles Duke, quand on lui a posé cette question-là, il dit bon, les ceintures de Van Allen. Il dit quand nous en avons parlé à NASA, ils ont dit. C'est à peine s'ils ont mentionné ça. Tu dis, vous allez traverser les ceintures de Van Allen, merci, bonsoir. C'était même pas un objet de préoccupation, là. En fait, ils ont traversé ces ceintures-là, comme je l'ai mentionné, en moins d'une heure. Et les astronautes. Et évidemment, c'est pourquoi je donnais la description du fameux croissant. Un croissant n'a pas la même épaisseur. Hein? Les bouts sont moins épais que le milieu du croissant, là. Donc, dans le cas des missions Apollo, les astronautes ont traversé les ceintures de Van Allen en passant par les endroits les plus minces de la ceinture. Et même là, hein, la dimension ou l'épaisseur de ces ceintures-là varie. Donc, lorsqu'ils ont traversé ça, ils ont traversé par des endroits où la ceinture était moins importante, ils l'ont traversé en moins d'une heure. Et pour te donner une idée, là, les astronautes qui ont été les plus irradiés en traversant les ceintures de Van Allen, c'est les astronautes de la mission Apollo 14, et leur irradiation équivalait à celui de passer un scan chez le médecin.
OK, fait c'est tout.
Donc, tu sais, quand tu vas à l'hôpital et tu dois passer un scan à résonance magnétique, là, ben c'est ça. Ils ont été irradiés comme s'ils avaient passé un scan à résonance magnétique. Donc, tu comprends pourquoi
pas très dangereux,
que ça.
Ouais.
C'est pas très dangereux. Et les gens, quand ils parlent de ça, ils disent « Ah, c'est des particules, c'est chargé. » Il faut savoir que des particules chargées, pas chargées, des particules, ça varie beaucoup d'une particule à l'autre. Hein. Un photon, par exemple, un photon de lumière, un photon, c'est une particule, mais je peux l'arrêter avec une feuille de papier. Tu comprends?
Oui.
Donc, les particules dans l'espace, quels que soient les dépendamment des rayonnements, ben, il y a certaines particules qui peuvent être arrêtées par des feuilles de papier. Là. Ils sont là, mais ils peuvent être arrêtés par des feuilles de papier. Dans le cas des missions Apollo, et c'est également la même chose avec Artemis, il suffit d'avoir un revêtement de différentes couches de composites, mais généralement l'équivalent de 3 ou 4 épaisseurs de papier d'aluminium comme tu l'utilises chez toi là, pour faire la cuisine est suffisant pour couper les radiations le temps où tu vas traverser cette ceinture-là. Donc l'idée là, de cette espèce de manteau de plusieurs mètres d'épaisseur de plomb, là, ça c'est de la science-fiction. Là. Les vaisseaux Apollo comme le vaisseau Artemis, quand on regarde le vaisseau Artemis, c'est le vaisseau Orion, hein, c'est le nom de la capsule. Quand on regarde la capsule Orion, quand on regarde les capsules, les modules de commande des vaisseaux Apollo, ben ils avaient une couverture, une mince couverture en aluminium pour les protéger contre ces irradiations, et ce qui était bien suffisant pour le temps qu'ils passaient à l'intérieur des ceintures de Van Allen. Donc, et ça, bon, même si on le répète depuis maintenant 50 ans, là, que les ceintures de Van Allen, c'est de la foutaise d'évoquer ça pour prétendre qu'on n'a pas été sur la Lune, ben je sais que ça ne changera rien. Les complotistes vont continuer de sortir cet argument-là, qui est un argument fantoche, que tu verras, que tu n'entendras jamais dans la bouche d'un physicien professionnel ou un spécialiste en aéronautique spatiale. Mais bon, ils vont continuer de le sortir comme argument, mais dans le cas d'Artemis, on comprend bien que si les astronautes sont de retour dans une semaine, je vois mal comment ils vont, comment ils vont réagir. Nos complotistes vont dire quoi, vous n'êtes pas allé là. Non, on a pris des photos, hein, on voit la Lune, la Terre. Non, ils vont dire, ouais, mais de toute façon, les photos sont truquées, puisque la Terre est une boule.
Voilà.
Fait que, elle devrait être plate. Hein, donc, et ensuite, ben, forcément, ça doit être truqué, c'est pas vrai. Donc, c'est une éternelle fuite en avant. Et ça, c'est un peu triste parce que ce discours-là, nous empêche d'apprécier en réalité cet extraordinaire exploit qui est de celui d'envoyer des astronautes dans l'espace comme on le fait avec la mission Artemis. C'est tout à fait extraordinaire. Puis bon, ben, et voilà. Donc, c'est un peu amusant. J'avoue honnêtement que j'ai hâte de voir comment
ils vont s'en sortir
du complot, ouais, vont s'en sortir avec le retour des astronautes d'Artemis pour essayer de justifier que, oui, bon, ben quoi, ils ont mis les ceintures de Van Allen à off pour ce jour-là. Je sais pas comment ils vont réussir à sortir de ça, mais ça vient rendre caduque cette mission-là. D'ailleurs, il faut quand même le dire, hein, les astronautes des missions Apollo n'étaient pas les premiers êtres vivants à traverser les ceintures de Van Allen.
On l'avait testé avant, oui.
Ouais, avant eux, les Soviétiques avaient envoyé une sonde qui, de mémoire, s'appelait Zond. Et dans la sonde Zond, il y avait des vers, des mouches et des tortues, okay, je crois. Mais quelques animaux comme ça, mais je pense que c'était des vers à soie ou des trucs comme ça. Il y avait des mouches et des tortues. Et bon, ben, on a envoyé la sonde, elle a contourné la Lune, elle est revenue, on a donc récupéré la sonde. Et ben, les vers, les mouches et les tortues étaient en parfaite santé. Donc, on savait déjà, donc les premiers êtres vivants à traverser les ceintures de Van Allen n'étaient pas des êtres humains, mais bel et bien des animaux et des insectes, dans le cas présent aussi, par les Soviétiques. Et ils ont montré très clairement qu'il n'y avait aucune incidence sur les êtres vivants. Et ensuite, il y a eu les missions Apollo. Donc, je vois mal comment ces gens-là vont réussir à s'en sortir lorsque les astronautes de la mission Artemis vont revenir. Ce sera forcément de dire une fuite en avant et encore une fois de crier au complot une incroyable machination. T'sais. Mais voilà.
De nous faire croire encore que tout a été fait dans un studio de télévision.
Studio.
Ben oui.
Ouais, c'est ça, tu sais. Mais bon, et même si... parce qu'en même temps, c'est amusant parce que les gens qui nous écoutent, qui connaissent un peu comment fonctionnent ces systèmes-là, ben les gens qui ont accès à des antennes paraboliques peuvent les tourner et écouter les communications, hein. C'était le cas, par exemple, avec l'émission Apollo, hein. Il y avait des radioamateurs qui syntonisaient les canaux, puis ils entendaient les communications des astronautes, okay, avec le Centre spatial Houston. Et donc, ils entendaient les communications. Et ces communications-là venaient pas d'un studio. L'antenne n'était pas tournée vers le Nevada. Les antennes étaient tournées vers l'espace. Donc, mm-hmm, le signal venait de l'espace. C'est comme une espèce d'ignorance, mais je pense une ignorance un peu volontaire. Mais bon, c'est un peu comme ça. D'ailleurs, puisque... on en est à parler des théories du complot et de tout ce que l'on raconte, parce qu'il y a un autre truc, c'est souvent on entend les gens qui parlent, on parle des extraterrestres, souvent, oui, les astronautes ont vu des ovnis, pis ça, ouais. Mm-hmm. Puis là, ils ont communiqué avec Houston, mais ils communiquaient sur un canal secret.
OK.
Un canal secret. C'est un peu, tu sais, les ondes de télévision, TVA émet, mais elle émet sur un signal secret.
Secret, ouais, encrypté.
Oui, c'est secret. Oui, tu as toute une antenne chez toi, là, mais il y a un signal secret.
Oui.
Il faut vraiment que tu ne comprennes pas comment que ça fonctionne. Là, tu sais, là, comme tu l'as dit si bien, on pourrait éventuellement l'encrypter, mmh, on pourrait éventuellement utiliser des mots de code,
oui,
hein, pour pas désigner, hein, comme, tu sais, si tu veux écouter la police, par exemple, il n'y a pas un signal, il n'y a pas un canal secret de la police.
Non, non, ça prend le bon équipement. Là.
Si tu as l'équipement, tu peux écouter la police chez toi. Ils vont utiliser des mots de code que tu ne comprendras pas nécessairement. Là. T'sais, par exemple, le dispatcher, si tu me permets, là, le oui, répartiteur oui, ou répartitrice va dire « Oui, on a un 10-25 à tel endroit. » Si tu connais pas les codes de la police, un 10-25, ça te dit strictement rien, tu comprends? Donc, on peut utiliser des mots comme ça ou des expressions pour essayer de garder l'information entre des gens qui savent de quoi on parle. Mais quand j'entends, moi, des trucs me dire « Ouais, les astronautes ont vu des ovnis, ils ont communiqué à Houston sur un canal secret. » Un canal secret? Dans le monde entier, il y a des radioamateurs qui ont des antennes tournées vers l'espace. Là, tout d'un coup, leur antenne capte n'existe plus. Parce que c'est le canal secret. Il faut vraiment que tu n'aies aucune idée de comment fonctionne la communication de cette manière-là. Et qui plus est, cette communication qui n'était pas très sophistiquée dans les années 60 ou les années 50 et 60, lorsqu'il y a eu ces premiers vols dans l'espace. Hein. Les premiers vols débutent au début des années 60 jusqu'aux missions Apollo, début des années 70. Donc, les systèmes de communication sont relativement rudimentaires. Les astronautes avaient certainement des mots de code s'il arrivait un pépin majeur, tu sais, pour dire, bon, ben voilà, on a telle ou telle situation, on a un code 212 ou un code 325. Ouais. D'ailleurs, quand Neil Armstrong est venu pour se poser sur la Lune, hein, on l'entendait répéter à quelques reprises, Houston, on a un code 1202. Ben, si toi, tu ne sais pas c'est quoi 1202, ça veut dire quoi, ça? C'est pas un canal secret. 1202, ça voulait dire que l'ordinateur était surchargé puis il perdait les données sur le sol. Le radar n'arrivait plus à donner à quelle distance se trouvait le sol. C'était ça le code 1202. Okay. Mais bon, bref, c'est toujours un peu amusant. Mais bref, et j'en profite parce que bon, là, on doit aller à la pause, mais absolument. Je rappelle pour les gens qui veulent revivre un peu cette grande épopée des vols spatiaux habités des années 60-70 et tous les mythes qui y sont accrochés, hein, les histoires d'ovnis, de bases sur la Lune et tout le reste. Je rappelle aux gens que je vais faire une conférence à Québec, c'est le 9 mai prochain. Ça se tiendra à l'Université Laval, dans la salle Hydro-Québec. Et les gens qui voudraient avoir de l'information pour s'inscrire, il reste encore quelques places, faut faire vite, c'est le christian-page.com, christian-page.com. Et là, il y a un onglet conférence. Vous pouvez vous inscrire pour cette conférence. C'est le 9 mai prochain à l'Université Laval, salle Hydro-Québec. Voilà. Sur ça, Nick, je te laisse aller à la pause.
Ben oui, on fait une pause au retour. Je sais pas si tu veux rester dans le ciel et voyons l'atmosphère pour parler des ovnis, des disparitions.
Non, comme on est Vendredi Saint, il y a des gens qui m'avaient envoyé des questions. Puis là, ben, j'ai dit, je vais les regrouper. J'ai minimalement deux questions à propos du Christ et du Vendredi Saint. Donc, après la pause, je vais te parler de ça.
Bougez pas, on revient tout de suite après ceci dans les Radio X-Files sur les ondes de choix, 98.1 Radio X.
Radio X Files
avec Christian Page.
Radio X. Ray, the sports, dans Morel Live. Et Will est en direct. Ray, the sports.
Radio X.
Présenté par Unicanva.
Chez nous, vous aurez une variété de produits hors du commun. Toit rigide en acrylique, verrière, auvent rétractable ou mur sur rouleau. Unicanva avec un S.com.
Fermez les yeux et imaginez un spa qui s'occupe lui-même de son traitement de l'eau. Oh. Eh oui, ça existe avec Arctic Spa. Finis les tests de pH et de chlore chaque semaine avec le Spa Boy exclusif chez Club Spa. Le seul système au sel homologué par Santé Canada. Arctic Spa, c'est une performance énergétique supérieure et très économique à faire rouler été comme hiver. C'est présentement la grande vente de début de saison. Ne manquez pas l'occasion de profiter des meilleurs prix. Club Spa, une entreprise familiale depuis 45 ans. L'ancienne Lorette et Beauport.
Du 2 au 4 avril, c'est l'événement Saline chez La Tulipe. Plus de 300 tonnes de sel au meilleur prix de l'année. Et on paie les taxes sur les produits de Saline à prix régulier. Les quantités sont limitées. Faites vite. On vous attend dans les 3 La Tulipe, jeudi, vendredi et dès 7h samedi.
Chez Payworks, nous le savons bien. La paye n'attend pas et vous devriez pas non plus. Depuis plus de 20 ans, nous soutenons les entreprises canadiennes avec un véritable service de la paye. Une expertise en conformité au Québec et une plateforme intégrée pour les payes, les RH et le suivi du temps. Bilingue et local avec des bureaux partout au pays, dont Montréal. Mettez fin aux balades dans les centres d'appel et obtenez des réponses quand ça compte. Visitez meilleurservice.payworks.ca.
Tivierge et fils, l'expert en puits artésiens, pompes et traitements d'eau, effectue vos travaux de forage, qu'ils soient complexes, de grand diamètre ou sur des terrains sinueux. Tivierge et fils, c'est la référence dans la grande région de Québec et les environs. Tivierge-et-fils.com.
Fenêtres en buée, moustiquaires brisées, pièces de porte ou de fenêtres à remplacer, Vitrerie Globale est là pour ça. Thermos, pièces moustiquaires, du travail bien fait. Vitrerie Globale, de vrais vitriers. Vitrerieglobale.ca.
Le 26 mars dernier, ADM Sport a inauguré une toute nouvelle succursale sur la route du président Kennedy à Lévis. Nous remercions grandement la population de Chaudière-Appalaches pour son soutien et l'accueil des plus chaleureux.
ADM Sport, c'est tout ce que tu aimes. Chez IGA, avec la garantie prix vérifiée, profitez des plus bas prix sur les produits identifiés ou recevez la différence en points 5 plus. Jusqu'au 8 avril, le beefsteak tomahawk sterling silver est à 15,99 la livre ou 35,25 le kilo. IGA, au beau les prix. Magasin participant. Détails à IGA.ca.
Chapeau Ben, c'est votre magasin de liquidation à Québec, Saint-Georges et Lévis. Pour de la nourriture, des vêtements et des nouveautés chaque semaine, c'est Chapeau Ben. Toujours de 20 à 60 de rabais sur le prix du marché. Chapeau Ben, des marchands de bonheur. ChapeauBen.com.
Yole, équipement service, c'est 20 ans d'expertise au service des garagistes et concessionnaires. Centre autorisé Robinair. Entretien et réparation d'équipements AC, élévateurs. L'été s'en vient. Préparez vos machines dès maintenant. Yole, équipement service à Charlebourg.
C'est le printemps gagnant avec Michelin. Jusqu'au 29 mai, recevez 100$ en carte prépayée Michelin Mastercard MD à l'achat de 4 pneus neufs Michelin Tourisme ou Camionnette et profitez de la garantie. Passez chez Les Tourneaux Service de pneus. Des conditions s'appliquent. Visitez Michelin.ca.
Bonjour à tous, c'est votre sommeil. Invité spécial de Dormez-vous. Vous savez, les couples, ça se couche pas toujours en même temps. C'est ce qu'on appelle le décalage horaire du sommeil. Quand le deuxième qui se couche finit par atterrir sur le lit, ben ça réveille le premier. Avec un matelas qui limite le transfert de mouvement, chacun peut avoir un beau dodo de première classe. Bon voyage dans vos rêves.
Pendant l'événement Dormez mieux, obtenez jusqu'à 20% de rabais sur les matelas, draps, couettes et plus encore. Seulement chez Dormez-vous. Pour un temps limité, des conditions s'appliquent.
Radio X-Files
avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files en ce vendredi saint, parce que c'est la fin de semaine de Pâques. D'ailleurs, petite parenthèse, on sera en mode reprise lundi, parce que ce sera le congé de Pâques, justement, pour tous les animateurs ici à choix. Mais Christian, c'est une belle occasion pour parler, justement, de tout ce qui est d'histoire religieuse.
Oui, et vous avez été nombreux là, parmi les auditeurs à m'envoyer comme référence un podcast qui a été présenté il y a quelques semaines, 2-3 semaines maintenant, qui s'intitule Révélation. Et c'est un entendons-nous, c'est un podcast qui est en onde depuis mai 2025, donc relativement récent. Ils ont une trentaine de vidéos en lice. Et ce sont généralement des vidéos qui ont une orientation plus ou moins religieuse. Hein? Bon. Et d'ailleurs, l'animateur est lui-même membre du clergé. Là, on le voit avec son col romain bien en évidence là, quand il fait ses entrevues. Cela étant dit, il y a quelques semaines, ils ont reçu un type qui s'appelle Philippe Boxeau. Il est médecin légiste, un médecin légiste belge. Il a une licence en criminologie et il a écrit plusieurs ouvrages qui traitent de la mort. Hein. J'en ai quelques titres ici. Là. La mort, les morts ont la parole. La mort en face, entretien avec un cadavre. J'aime bien ce titre-là. Entretien avec un cadavre. La mort, c'est ma vie. Donc, et ce type-là, donc c'est un médecin légiste. Et il approche la médecine légale, il t'explique comment on mène des enquêtes, comment on fait parler des morts, finalement, quand il y a un acte criminel, toute l'information que le cadavre peut nous donner. Il fait un excellent travail, il faut quand même le dire. Et il était l'invité de cette émission Révélation et pour parler du linceul de Turin. Donc, le linceul de Turin, qu'on appelle parfois le suaire, quoique c'est une erreur, là, c'est pas vraiment un suaire, c'est plutôt un linceul. Mais... pour le besoin de notre conversation, là, on oui. va les interchanger, linceul et suaire. Donc, c'est une longue pièce de lin qui fait, grosso modo, 4,40 m de long pour 1,10 m de large. Elle se trouve aujourd'hui dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, en Italie. Elle y est d'ailleurs depuis 3 siècles maintenant. Et cette pièce de lin a ceci de particulier, c'est qu'on y voit l'image dorsale et ventrale, un peu fantomatique. Hein? Je sais pour l'avoir vu, là, j'étais à côté. Là. Et quand on est juste à côté, d'ailleurs, lui-même, Philippe Boxeau l'a vu, puis il le décrit bien également dans l'entrevue. Il dit, quand on est juste à côté, on le voit pas. C'est quand on prend quelques pas de recul que là, on voit se détacher l'image un peu fantomatique de cet homme, l'homme du linceul. Parce que, bon, le tissu, il est jaunâtre. Hein? Avec le temps, il a jauni. Et l'image est elle-même un peu comme sépia. Donc, c'est du sépia sur du jauni. C'est pas... Quand on a le nez dessus, là, on le voit pas très bien. Mais quand on se recule, on voit assez bien cette image dorsale et ventrale de l'homme du linceul. Et pour les fidèles à travers le monde, ben, cet objet serait le tissu qui a enveloppé le Christ au moment de sa descente de la croix. Les évangiles nous disent qu'après sa mort, on l'a descendu de la croix, il a été enveloppé dans un linge et on l'a mis dans une tombe qui était creusée dans un roc. Au milieu d'un jardin. C'est ce que nous disent les évangiles. Donc, ouais. Ce tissu serait le fameux le linceul qui aurait enveloppé le Christ. Et l'image que l'on voit, cet homme du linceul, ben effectivement, on voit que l'homme en question porte des plaies, des marques qui sont propres à celles qui sont décrites dans les évangiles, c'est-à-dire un trou sur le côté, sur le flanc, qui est la marque laissée par le légionnaire romain qui aurait percé le côté, des marques de clous dans les poignets, des marques de clous aux pieds et des marques également, des lacérations sur la tête, place de la couronne d'épines, et également des lacérations, principalement dans le dos, qui sont les vestiges ou les traces laissées par la flagellation. Donc, on a tous ces éléments-là qui sont bien visibles sur l'homme du linceul, et tu as bien compris que la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que le linceul, il est authentique ou non? Est-ce que c'est le linceul du Christ, ou est-ce qu'il s'agit d'une fraude qui a été faite quelque part au Moyen-Âge? On sait de façon certaine que le linceul apparaît, grosso modo, là, on se disputera pas pour une année ou deux, là, mais il apparaît, grosso modo, en 1350, dans une petite commune, pas tellement loin de Paris, qui s'appelle Liré, et c'est là pour la première fois qu'on voit cet objet-là. Donc, ce linceul du Christ, il est exhibé dans une commune, et à partir de là, donc, bon, je pourrais pratiquement te dire que jour après jour, là, de 1350 à aujourd'hui, on sait chaque jour, chaque heure, où et le suaire, et comment, et quelles sont ses pérégrinations. Donc, on connaît une histoire bien documentée à partir de 1350. On n'a pas vraiment d'histoire avant 1350. Ce qui amène beaucoup de sceptiques à dire, ben voilà, c'est une fraude, et on connaît la date à laquelle elle a été faite, c'est 1350. Sinon, on en parlerait avant. On n'en parle pas avant. Donc, forcément, c'est au moment où elle apparaît qu'elle est l'œuvre d'un faussaire. Ça reste un sujet de débat, et j'entrerai pas dans ce détail-là parce qu'on en aurait pour 3 ans. Mais c'est vrai que c'est un sujet de débat. Et il y a eu une analyse au carbone 14 qui a été réalisée en 1988 sur le linceul de Turin. Et l'analyse au carbone 14 avait déterminé que l'âge du suaire, grosso modo, datait entre 1280 et 1360. Ce qui tombait pile dans la fourchette de temps dans lequel le linceul est apparu. Ça, c'est ce que l'analyse au carbone 14 nous a donné. Évidemment, les gens qui sont les défenseurs de l'authenticité du linceul ont remis cette analyse au carbone 14 en question. Et je te dirais, objectivement, qu'ils l'ont remis en question avec raison. Ça n'a pas été fait dans les règles de l'âge. Encore là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais au départ, on avait 20 universités, on avait un protocole qui avait été établi, on avait 20 universités qui avaient été sélectionnées, et à la fin, ben, finalement, on n'en a gardé que 3 universités, on n'a pas suivi les protocoles, on a fait ça à peu près du n'importe comment, et éventuellement, on est arrivé avec cette analyse-là. Donc, il est normal qu'on puisse se questionner sur la validité de cette analyse. Moi-même, j'ai eu l'occasion de parler avec l'un des dirigeants de cette analyse au carbone 14. Ça avait été notamment organisé par l'Université Oxford, qui est un peu le maître d'œuvre. Il y avait 2 autres universités qui avaient été sélectionnées, à savoir l'Université de Tucson en Arizona et l'École polytechnique de Zurich. Donc, c'est les 3 laboratoires qui avaient été mandatés pour faire cette analyse au carbone 14 sous la direction de l'Université Oxford. Et j'ai parlé avec Christopher Ramsey, qui était le directeur de l'opération Suaire, appelons ça comme ça. Et Christopher Ramsey lui-même, en privé, me dit, bah, l'analyse au carbone 14, il dit, on est prêt à admettre que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Il n'était pas prêt à admettre qu'on avait commis une erreur de 1300 ans. C'est quand même beaucoup, là. Mais tu sais, si demain matin, on m'arrivait et on me disait on s'est trompé de 200, 250 ans, je ne serais pas surpris. Il dit 1300 ans, là, par contre, j'ai des doutes. Mais néanmoins, on voit que même les gens qui étaient proches de l'analyse reconnaissent qu'il y a comme quelque chose qui n'a pas bien été. Bref, c'est un grand débat. Quelle est l'origine du linceul? Et donc, j'ai écouté, et c'est un... Je l'avoue, là, c'est un de mes péchés mignons. J'adore l'histoire des reliques religieuses. Et donc, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que Félix Boxeau disait à propos de cette relique. Et j'ai trouvé qu'il en faisait une analyse qui était tout à fait objective et propre, avec les bonnes questions aux bons endroits. Donc, il dit, ben voilà, on ne sait pas comment l'image était faite, il y a ceci, il y a cela. Et tout ce qu'il évoquait, et d'ailleurs, il le précisait bien, tout comme moi d'ailleurs, parce que je tiens à le préciser, je suis athée. Donc, il n'y a pas un débat religieux là pour moi. C'est pas, et j'irais même plus loin que ça, Nick, je te dirais, j'ai intimement la conviction que le linceul de Turin doit être une fraude.
Ah oui?
Je ne peux pas le prouver.
Ouais. Ouais,
mais je me dis, voyons... Je peux pas croire qu'un gars mort il y aurait 2000 ans dans une tombe a laissé son image sur une guenille.
Ouais,
ça n'a pas de sens. Pour moi, dans mon fort intérieur, ça n'a pas de sens. Mais on n'est pas ici pour parler de mes croyances, on est ici pour parler des faits vérifiés et vérifiables. Donc, mettons mes croyances de côté, et Philippe Boxeau le fait aussi bien, parce que lui aussi le dit, je suis athée, mais il pose des questions qui sont tout à fait pertinentes. Comment l'image s'est-elle formée? Comment expliquer? Et ça, j'avoue que c'était un des détails qui m'avait beaucoup agacé. J'avais fait une recherche très sérieuse. L'homme du linceul de Turin a les clous dans les poignets. Et ça, c'est... écoute bien ça, parce que c'est un petit détail très important. L'homme du linceul de Turin a des trous dans les poignets. Or, et retiens ça, là, que le linceul est apparu en 1350. En 1350, on est en plein Moyen-Âge. Hein, on arrive, là, le Moyen-Âge, il y a encore 150 ans avant qu'on passe du Moyen-Âge à la Renaissance. Et l'homme du linceul a les trous dans les poignets. Or, quand on regarde l'iconographie religieuse de cette époque, Jésus a toujours les clous dans les mains.
Oui.
Et j'ai fait une recherche, je dois avoir regardé plus de 6000 œuvres artistiques de cette époque ou antérieures où on dépeignait la crucifixion de Jésus. Je n'en ai trouvé aucune. Il y en a peut-être une, mais sur les 6000 œuvres que j'ai regardées, j'en ai trouvé aucune où on voyait Jésus avec des clous dans les poignets. Il était toujours représenté avec des clous dans les mains. Parce que c'est une traduction, hein? La Bible a été en partie écrite dans différentes langues, mais principalement en araméen et également en grec. Et les traductions, hein, si on prenait le mot de traduction, c'était « il a été cloué entre la pointe des doigts et le coude ». On ne donne pas précisément l'endroit.
Quand même.
Donc, il y avait une espèce dans la tradition religieuse, on a décidé de lui mettre les clous dans les mains. Et toute l'iconographie religieuse du Moyen-Âge, avant l'apparition du linceul, montre toujours un Jésus avec des clous dans les mains. Or, le linceul, l'homme du linceul, a les clous dans les poignets. D'ailleurs, à une époque, quand le linceul avait été exhibé pour les premières fois, les fidèles doutaient qu'il puisse être le véritable linceul du Christ, en se disant, voyons, on voit bien que c'est une fraude, parce que tout le monde sait que Jésus a été cloué dans les mains. Or, l'homme qui apparaît sur le linceul, il a été cloué dans les poignets. Et il faudra attendre le 19e siècle, des travaux, notamment par des physionomistes, qui vont démontrer, en fait, qu'on ne peut pas clouer quelqu'un dans la main. Ça ne tiendra pas, la main va se déchirer.
Ouais. Oui.
Les Romains, en fait, enfonçaient le clou dans le poignet, dans un espace bien connu maintenant, qui s'appelle l'espace de Desto. Desto, dans le nom du médecin qui a déterminé ce trou dans le poignet. Donc, on plaçait le clou dans cet espace-là, au milieu du poignet, qui donnait une prise forte sur la croix. Donc, tous les crucifiés qui ont été cloués sur des croix à l'époque romaine, hein, les Romains avaient ramené ça, la crucifixion, il avait découvert ça en Perse, puis ils l'avaient ramené, puis ils l'utilisaient. Donc, et comme ils l'utilisaient beaucoup, ils étaient pas mal passés maîtres dans l'art de clouer des gens. Donc, les clous étaient placés dans les poignets. Donc, tu peux te poser la question, comment un faussaire qui aurait fait un faux sueur au Moyen-Âge aurait... penser de mettre les clous dans les poignets alors que la tradition religieuse le plaçait dans la main, et ce n'est qu'au 19e siècle qu'on découvre que c'était finalement dans le poignet. Donc, on a des petits éléments comme ça.
Ouais.
Il y a aussi l'homme du linceul présent au niveau de sa flagellation. On voit que les marques qui ont été laissées dans la chair ressemblent à des petits altères. Or, ce n'est que l'archéologie récente qui a révélé que le flabellum que les Romains utilisaient pour fouetter les gens, ben c'était des lanières de cuir avec des bouts en métal qui ressemblaient à des haltères. Donc, ce n'était pas une information qui était connue au Moyen-Âge. Donc, encore une fois, c'est un détail qu'on retrouve sur l'homme du linceul. Donc, c'est des questions qu'on doit se poser. Je suis pas là pour dire le linceul est authentique, pas authentique. Je laisse aux gens déterminer ce qu'ils voudront croire. Mais c'est des questions qu'on doit se poser. Et on ne sait pas comment l'image a été faite hein, sur le linceul. Des gens disent c'est de la peinture. Non, c'est pas de la peinture. Ce que l'on sait, là, on sait que le lin est entouré il y a comme un peu comme un fil électrique, il a une gaine autour. Et dans le cas du lin, ben c'est cette gaine-là, c'est la cellulose. Et ce que l'on sait, c'est que l'image est c'est comme si on avait chauffé la cellulose du lin. Hein. C'est un peu comme si on avait rossi un peu le tissu pour faire apparaître l'homme du linceul. Et ça aussi, c'est important, on n'a aucun autre exemple dans l'histoire. Il n'existe aucune autre œuvre, quelle qu'elle soit, qui ressemble de près ou de loin au linceul. Donc, si le linceul est une fraude, ben, l'artiste qui l'a fait a fait qu'une seule œuvre, celle-là, c'est la seule qui nous soit parvenue, puis c'est disparu. Et ça n'a jamais été utilisé par aucun autre artiste. Ce sont des questions qui sont fondamentales, des questions qu'on doit se poser. Et sans prendre position, ben, j'ai trouvé que Philippe Boxeau faisait un excellent travail pour présenter ces éléments-là. Et lui, en tant que médecin légiste, ben, il attire notre attention sur des éléments très précis. Et j'avoue que ça venait... disons ça comme ça, c'était un peu un vent d'air frais. Parce que j'avais vu il y a quelques mois un type que j'aime bien, qui s'appelle Thomas Durand, en France, qui avait fait une vidéo sur le linceul de Turin. Thomas Durand, pour situer un peu où les auditeurs, peut-être ceux qui nous suivent depuis très très longtemps à Radio X-Files, se rappellent que j'avais reçu à l'émission Radio X-Files ce Thomas Durand, au moment où il avait publié un ouvrage sur les expériences de mort imminente. Bon, ce Thomas Durand, c'est un individu qui représente en France un peu l'association des sceptiques qu'on a ici au Québec. Donc en France, ils appellent ça l'association zététique. Donc lui, Thomas Durand, il représente cette organisation-là. C'est un sceptique, là. Entendons-nous, un sceptique pur et dur. Et personnellement, je trouve que certains de ses arguments, de ses propositions sont tout à fait fondés. Il a écrit d'ailleurs des ouvrages qui sont tout à fait intéressants. D'ailleurs, si un de ses ouvrages mérite une place dans votre bibliothèque, c'est un de ses ouvrages qui s'intitule « La science des balivernes » et dans lesquels il explique comment on réussit à monter des arguments pour défendre souvent des idées absurdes. Mais il y a quelques mois, donc, ce Thomas Durand, que j'aime bien, là, avait fait une vidéo, en fait, en deux parties sur le linceul de Turin. Et là, j'avoue que j'avais été déçu. Parce que moi, je l'ai vu, le linceul de Turin. Encore une fois, je précise, je crois qu'il doit certainement s'agir d'une fraude. Mais quand j'ai regardé Thomas Durand faire sa présentation sur le linceul de Turin, lui qui est un sceptique, j'ai trouvé qu'il faisait des coins ronds. C'est vraiment le type qui... C'est pas vrai, puis c'est sûr que c'est pas vrai parce que tu regardes, il y a un bras qui est un petit peu plus long que l'autre. Puis... Donc, je me dis, mon Dieu, là, vraiment, il est tombé. Il accuse souvent les gens qui croient au paranormal de pas faire leur devoir, de pas bien travailler, de se laisser aveugler par leurs croyances. Ben là, je pense que Thomas Durand s'est laissé aveugler par ses propres croyances sceptiques. J'ai rarement vu un travail aussi mal fait, là. Il se pose pas la question de comment l'image est apparue là. Ça doit être comme ça. Un faussaire a fait une image, un point barre. Évidemment, il évoque pas les trous dans les poignets au lieu des trous dans les mains, parce que bon, ça n'a pas d'importance. Je me dis, mais mon Dieu, que c'est mauvais, là. Tu sais, toute la crédibilité qu'il avait à mes yeux comme sceptique, parce que j'aime bien quand même l'idée de la pensée critique et rationnelle, c'est un peu ce qu'il défend. Mais cette fois-là, quand je l'ai regardé faire ça, c'est vraiment là, c'est minable. Comme travail, ça, c'est vraiment minable. Le travail de Boxeau est d'une qualité là, supérieure. On voit vraiment un homme qui s'est penché sur le linceul, qui a su voir les questions pour lesquelles on arrive difficilement à trouver des explications, et il les a soulignées au crayon gras en disant « Wow, ça, on ne sait pas comment c'est fait. » Il lui-même avoue, il dit « Je suis un athée, donc je ne crois pas que c'est l'œuvre de Dieu, mais j'avoue être... » trouver cette œuvre-là tout à fait remarquable et il y a des éléments pour lesquels qui nous échappent. Donc, oui, je comprends que les gens m'avaient pointé du doigt en me disant « ça, c'est intéressant, allez voir ça ». Je l'ai vu et oui, c'est extraordinaire. Donc, si vous avez la chance, là, si vous cherchez un podcast à voir sur le linceul de Turin, c'est « Révélation ». Ça, c'est le titre de la série de podcasts. Et c'est l'invité, ben, c'est Philippe Boxeau, comme je vous l'ai mentionné. Et ça dure à peu près une heure, mais il passe en détail l'ensemble des éléments qui sont intrigants à propos du linceul de Turin, sans se prononcer, tout comme moi d'ailleurs, sur l'authenticité de l'œuvre. Si c'est l'œuvre d'un faussaire, elle est remarquable. Puis si c'est l'œuvre de Dieu, ben, c'est remarquable.
Oui.
Disons ça comme ça. Écoute, donc voilà pour ça. Et comme il nous reste quelques minutes, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, ben, on arrive à la semaine sainte. Est-ce qu'il y a des reliques qui existent dans le monde qu'on est certain que ce sont des reliques du Christ? Parce qu'il faut le savoir, en cette période de Semaine Sainte et surtout de la fin de semaine de Pâques, ben, à travers le monde chrétien, des gens vont visiter des cathédrales, des églises, des sanctuaires qui sont dédiés au Christ. Et plusieurs de ces grandes cathédrales, en Europe notamment, ont des objets qu'ils présentent à la vue des fidèles comme étant des objets étant liés à la passion du Christ. Les plus célèbres d'entre eux, on a parlé du linceul de Turin, mais il y en a d'autres. Il y a dans le musée de l'Hofburg à Vienne, on a la Sainte Lance, donc cette lance qui aurait percé le flanc du Christ en croix. À Paris, à tout le moins jusqu'à l'incendie de la Notre-Dame de Paris, on avait la couronne d'épines qui maintenant a été transférée au musée du Louvre pour être protégée. Et bon, à Argenteuil, à partie de Saint-Denis, hein, qui est une banlieue de Paris, il y a l'église d'Argenteuil. Et dans l'église d'Argenteuil, on a une pièce de tissu que l'on dit être la tunique du Christ, un morceau de la tunique du Christ. Donc, il y a de ces objets, évidemment. Toujours la même plaisanterie. On a tellement des morceaux de croix qu'on pourrait faire une forêt de bois, là. Tellement chaque église en Europe a son petit morceau de la croix. Donc, est-ce qu'il y a de certains de ces objets-là où on peut être à peu près certain que ce sont des objets qui sont présentés comme tels et qu'on a la preuve qu'ils sont ce qu'ils sont? Et la réponse, je sais que ça va probablement décevoir beaucoup, mais la réponse est non. On n'en a pas de preuve de ces objets, que ces objets-là, non. Et il y a plusieurs raisons à ça. Ça se peut que les objets... Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, puis là, je rejoins un peu les sceptiques hein, quand ils regardent le linceul de Turin avec des doutes. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, il s'est développé en Europe une politique des reliques. Hein, les souverains d'Europe voulaient tous avoir leur relique religieuse, leur relique de la Passion. Donc, évidemment, c'était devenu un terreau fertile pour les faussaires. On fabriquait des fausses reliques, puis on les vendait à toutes les têtes couronnées d'Europe. C'était un gros marché, ça. Ça fonctionnait bien, donc il faut toujours regarder ça avec beaucoup de prudence. Mais cela étant dit, il faut savoir que, imaginons là, que le Christ a réellement existé, même si là-dessus, c'est pas tous les historiens qui sont de cet avis-là, là. Majoritairement, là, 95% des historiens croient qu'il y a bel et bien eu un Jésus historique. Donc, si on va dans ce sens-là, donc on a eu un Jésus historique, maintenant on a des objets. Est-ce que ces objets-là ont appartenu au Christ ou ont été au centre de la passion du Christ? Ben, il faut savoir que le christianisme, jusqu'au 4e siècle, les gens qui se définissaient comme des chrétiens étaient persécutés. Donc, si toi, t'as appartenu à c'était considéré comme une secte. Hein, les chrétiens étaient une secte qui découlait du judaïsme. Donc, si toi, t'appartenais à une secte et que t'avais des objets chez toi et que tu t'étais présenté comme tel, t'aurais été persécuté. Et personne ne souhaitait d'être persécuté. Donc, si ces objets-là circulaient, ils circulaient sous le manteau avec peu de publicité. Hein? Tu ne te vantais pas sur les toits de dire « Hey, j'ai un morceau de la croix de Jésus ou j'ai la tunique de Jésus. » On ne faisait pas ça. Donc, ces objets-là, s'ils ont existé, durant les premiers siècles de ce christianisme naissant, ils ont circulé sous le manteau. Et ce n'est qu'à partir du 4e ou 5e siècle, à partir du moment où le christianisme a été reconnu, que Rome s'est converti au christianisme, que les chrétiens ont cessé d'être persécutés et qu'on a cessé de saisir leurs avoirs, que là, on a commencé à entendre parler de ces fameuses reliques. Hein, des groupes disaient, on a un morceau de la tunique, on a un morceau de ci, on a ça. Et donc, à partir de là, on a commencé à avoir une histoire écrite. Donc, avant cette période-là, il est très difficile de documenter. Et je sais, pour avoir fait l'exercice, je suis allé partout dans le monde, j'ai vu la tunique, les sandales de Jésus, les clous, la croix, Et à chaque fois où j'essayais de reculer dans l'histoire de ces objets-là, je tombais toujours dans le néant aux alentours du 4e siècle. Donc avant le 4e siècle, on n'a pas de documentation écrite qui nous parle vraiment de ces objets-là. Et donc à partir de là, si on n'a pas de référence historique, ça devient très difficile de prouver que c'est l'objet qu'on prétend être. Et dans les quelques cas où il y a eu des analyses scientifiques qui ont été faites, je pense notamment à la tunique d'Argenteuil, où là, on a analysé le tissu et on a démontré que, en fait, il datait du 8e ou 9e siècle, donc il était beaucoup plus tardif, donc il ne pouvait pas avoir été la tunique du Christ, même si les fidèles continuent de la vénérer comme telle. On a une analyse qui montre que ça ne peut pas être un tissu du 1er siècle. C'est le cas, par exemple, avec le linceul de Turin, où là, on a une analyse au carbone 14, même si elle est contestée, on a une analyse au carbone 14 qui semble dire qu'il daterait peut-être du 14e siècle. Et bon, la couronne d'épines, ben ça, on le sait pas vraiment, mais on sait qu'il n'y a plus d'épines sur la couronne, mais il n'y a pas eu d'analyse au carbone 14 réellement sur ces objets-là. Donc, si on n'a pas d'analyse au carbone 14, et même comme on le voit dans le cas du linceul de Turin, on peut la remettre en question, si on n'a pas d'analyse comme celle-là, et en plus de ça, on n'a pas de documentation écrite, ben ça devient très difficile de pouvoir évaluer l'authenticité de ces reliques-là. Donc, elles sont exhibées à travers le monde. Certaines sont tout à fait magnifiques, mais de là à prétendre que ce sont vraiment des objets qui ont été mis en scène dans la Passion du Christ, je pense.
On repassera.
Il faut faire preuve de foi. En ce Vendredi Saint, je pense qu'il faut faire preuve de foi.
Voilà. Ce qui nous laisse le temps, Christian, ben, de te souhaiter à toi et aux auditeurs un bon long week-end de Pâques, justement. Et puis,
à toi aussi.
Merci beaucoup et on va se retrouver vendredi prochain pour une autre édition des Radio X-Files.
Absolument. Bon week-end.
Salut Christian, bon week-end. Donc, c'était les Radio X-Files. Au retour de cette courte pause, la sexploratrice s'installe.
Radio X-Files. Avec Christian Page. Radio X, le Carbo. Show. Avec.
Allô?
Carbo.
Oui, c'est le Carbo.
Lundi au jeudi, 18h. Radio X.
Le Carbo Show présenté par Export Auto.
Pourquoi payer plus ailleurs? Chez nous, c'est moins cher. On est là pour vous. 2703 Président Kennedy ou exportauto.com.
C'est la semaine Rona. Des gros rabais du 26 mars au 8 avril. Fait qu'on appelle tout le monde.
Allô?
Julie, sais-tu c'est quoi la semaine Rona?
Des gros rabais chez Rona.
En plein ça!
Allô?
Steve, sais-tu c'est quoi la semaine Rona?
Non, je dormais.
Réveille, Steve! C'est des rabais du 26 mars au 8 avril chez Rona.
OK.
Prochain appel.
Pépé en lait, c'est la place à Québec. Bœuf Angus de catégorie 3A+, porc, poulet, agneau, poisson, fruits de mer, épices et sauces. Tu recherches la qualité et des produits supérieurs au meilleur prix? Rendez-vous au Pépé en lait, 2610 Boulevard Amel, Québec.
Le Salon du VR de Québec est de retour et plus grand que jamais. Du 9 au 12 avril, au Centre de foire d'Expo City, venez découvrir plus de 200 roulottes et véhicules motorisés 2026. Plus d'une centaine d'exposants, pièces, accessoires, conférences gratuites et les dernières tendances de l'industrie. Roulez, explorez, profitez. Achetez vos billets sur salonduvr.com. Planifiez votre prochaine escapade au Salon du VR de Québec, présenté par Orbit Service d'assurance.
Je suis avec Michel de Céramique L'Entrepôt. Michel, on dit que c'est la grande vente de printemps chez vous. Ça consiste en quoi?
C'est le moment idéal pour donner un nouveau look à votre maison. On vous offre des rabais incroyables jusqu'à 70 % sur une grande variété de produits. Céramique, vinyle click, flottant, plancher chauffant, on a tout ce qu'il vous faut.
Wow! Même moi, ça me donne envie de rénover. Alors pour des rénos à prix d'entrepôt, allez voir Michel et son équipe. Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand, face à l'entrepôt du hockey.
Cette semaine, écoute Morin Live.
Tu pourrais gagner l'un des 5 coupons de 75 $ de Pizza Hut. Le printemps s'en vient, l'envie de décrocher aussi. Dis-nous comment tu célèbres ça en famille ou entre amis et tu pourrais mettre la main sur 75 $ chez Pizza Hut chaque jour. Parce que les meilleurs moments commencent toujours avec une Pizza Hut. Redécouvre les restaurants Pizza Hut à Québec. Visite pizzahut.ca.
Les courtiers de multiprêt comme moi, Matt Duff, ils en font un peu trop. Ça se lève tôt, ça multitasque, ça négocie, ça y va au toast.
En fait, Matt, on pourrait dire qu'on y va au taux.
Au taux ou au toast? Je m'en ai, là.
T'inquiète, on va te démêler tout ça. Multiprêt hypothèque. On en fait presque trop pour votre taux. Avec plaisir.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ça vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
L'abus de plaisir n'est pas dangereux pour la santé. Magasinez au sensationplus.com et découvrez tous nos produits érotiques pour couples. Livraison rapide et discrète. Sensationplus.com.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, la caisse de 48 canettes de Budweiser est à 72$, puis la caisse de 24 bouteilles de Corona est à 35,99$. Hey, c'est super, Super C. Valide jusqu'au 8 avril, en magasin en ligne. Détail au supercé.ca.
Capsule.
Radio X.
Le 26 mars dernier, ADM Sport a inauguré une toute nouvelle succursale sur la route du président Kennedy à Lévis. Nous remercions grandement la population de Chaudière-Appalaches pour son soutien et l'accueil des plus chaleureux. Ce printemps, dites bye bye tatou avec les cliniques Viva. Découvrez la meilleure technologie de détatouage par laser. Ultra efficace, fonctionne sur toutes les couleurs d'encre et de peau. Pour un temps limité, planifiez votre consultation sans frais et recevez une carte cadeau de 125$. Cliniqueviva.com. Chez Monsieur le Fumeux, on a tout ce qu'il faut pour satisfaire toutes vos envies. Monsieur le Fumeux, il y a de quoi faire le bonheur du chef en vous avec de grandes marques comme Oklahoma Joe, V-Forge, Eno, Pit Boss et bien plus. Monsieur le Fumeux, notre service fait la différence. X-Port Auto, c'est le nouveau nom à retenir pour acheter ta nouvelle voiture. C'est certain qu'on est moins cher qu'ailleurs et on a toujours du nouveau qui arrive. Pourquoi payer plus ailleurs? Chez nous, c'est moins cher. 2703 Président Kennedy ou xportauto.com.
Choix.
Hell yeah!
Choix. 98.
Yes! 98.
1. Radio X.
Choix.
À Québec, c'est Radio X.
Choix. Radio X.
Faites-vous votre propre opinion. La
sexe.
Exploratrice.
Sexualité. Amour. Relation.
Et beaucoup plus.
Sans tabou.
La sexploratrice.
Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute.